pleine gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Pas de son commencé à l'aile gauche de la tôle. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pions. Avec des mitraillettes, il y a du baston dans la tôle. Y a du baston dans la tôle. Y a du baston dans la tôle. Café les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent, sortez de la bande de rats. Pour l'armée, si vous arrêtez pas, tu lâches le radis, je préfère encore crever. On a des allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Café les mecs, ça va saigner. Dans les gaz suffocants. On a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Café les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Café les mecs, ça va saigner.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes bien à l'écoute de l'Envolée, comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Et donc cette semaine, donc le vendredi, nous sommes le vendredi 22 mai 2026 et c'est une émission qui a été préenregistrée. Nous ne sommes donc pas en direct dans les studios. Et pour nous contacter en dehors du coup des horaires d'émission, vous pouvez nous écrire à l'envolée-fpp, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Vous pouvez nous appeler, nous envoyer des SMS au 07 53 10 31 95. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet l'envolée avec 2e.net, nous écrire des mails à contact@l'envolée.net et aussi nous retrouver sur X, Facebook et Instagram sous l'Envolée ou l'Envolée Journal suivant les réseaux et aussi sur différentes plateformes de podcast. Cette émission est également rediffusée sur tout un tas de radios associatives partout en France qu'on en profite pour saluer et remercier. Donc je vais commencer par rappeler c'est quoi l'Envolée. Donc l'Envolée, bah, c'est cette émission de radio hebdomadaire qui dure depuis 2000 et un journal qui l'accompagne depuis 2001, et donc une émission de radio et un journal qui relaie la parole des personnes enfermées et de leurs proches pour faire une critique, une critique de toutes les prisons, que ce soit les maisons d'arrêt, les maisons centrales, mais aussi les hôpitaux psychiatriques, ou les centres de rétention administrative, c'est-à-dire les prisons pour sans-papiers, et donc à la fois pour dénoncer les conditions dans lesquelles les personnes y sont enfermées, mais aussi pour critiquer le rôle qu'ont ces institutions totalitaires dans notre société, parce que c'est un véritable verrou des systèmes de domination politique et économique qu'on subit à l'extérieur et à l'envolée. On porte donc l'idée que la prison nous concerne bien toutes et tous. Et donc c'est pour ça qu'on relaie donc à cette antenne et dans notre journal des paroles de prisonniers, de prisonnières et de leurs proches, qu'on fait également des comptes rendus de procès auxquels on se rend et qu'on analyse des lois essentiellement répressives et sécuritaires qui s'empilent au dehors. Et donc dans cette émission préenregistrée donc pour le 22 mai 2026, on va encore une fois donner la parole à nos camarades de la Sellette, à qui qu'on a déjà reçu plusieurs fois à cette antenne, dont on a relayé déjà plusieurs fois cette année l'émission de radio qui s'appelle Tapage. Et donc il y a une émission sur les violences judiciaires. Donc comme nous, à l'envolée, on peut regarder la prison. Donc la Sellette, un collectif qui observe la justice dans les tribunaux. Vous pouvez retrouver notamment sur leur blog lacellette.org pas mal de chroniques d'audience, d'articles d'analyse et leurs émissions radio. Et ils ont aussi fait un bouquin qui s'appelle Sur la Sellette, que vous pouvez aussi retrouver dans les librairies ou commander. Et donc, dans cette émission, on va donc dans une deuxième partie vous passer en long une émission qui a été faite il y a 2 mois donc par les camarades de la Sellette sur la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. Mais avant, et pour remplacer les lettres qu'on lit habituellement à cette antenne, on va vous lire des chroniques d'audience que la Sellette, donc les gens de la Sellette vont au tribunal, notamment à Toulouse, et notamment en comparution immédiate, et font des récits de passage à la barre, parce que bon voilà, nous à l'envolée, pour nous c'est important de montrer cette violence judiciaire, parce que le surenfermement dont on parle souvent à cette antenne, forcément il commence dans les tribunaux, avec des juges qui envoient à tour de bras des gens en prison, qui foutent des dizaines d'années de peine de tôle ferme par an, voilà. Et ça se passe notamment beaucoup dans les salles de comparution immédiate où les gens sont jugés passent entre 5 et 10 minutes pour prendre des peines pouvant aller jusqu'à plusieurs années de prison. Donc, vu que c'est une émission préenregistrée et qu'il n'y a personne autour du micro à part moi, on va pas faire comme avec les lettres, discuter, commenter ces trois extraits, donc ces trois chroniques d'audience, mais bon, elles sont assez parlantes et je pense que voilà, d'elles-mêmes, elles expriment bien la violence judiciaire et font bien comprendre que effectivement, les prisons, ça sert d'abord à enfermer les pauvres, les marginaux et celles et ceux qui ne rentrent pas dans le cadre.
Toulouse, chambre des comparutions immédiates, décembre 2025. Timothée B. comparé pour un vol avec violence. Très saoul, il a pensé que David F. se moquait de lui. Il s'est approché, lui a donné 2 gifles, a arraché son casque audio avant de partir en courant. 30 minutes plus tard, il est cependant revenu sur les lieux et, à la demande d'agents de la compagnie de transport locale, il est resté pour attendre la police. Le président signale. Vous ne pouviez pas le savoir, parce que ça ne se voit pas, mais la victime est une personne handicapée. Alors, il vous intéressait ce casque? Vu que je voulais lui rendre, il ne m'intéressait pas. Pourquoi le prendre dans ce cas? Et dans le dossier, personne ne dit que vous vouliez le restituer. Quand vous êtes revenu sur les lieux, vous avez été interpellé et le casque a été récupéré. Le casier porte la trace de 2 autres vols sur personnes vulnérables, dont le dernier date de 2021. Le président l'interroge. Comment était la victime? Le prévenu répond dans un souffle que c'était une personne âgée. En 2025, à Perpignan, vous avez aussi été condamné pour un usage de stupéfiants et refus de donner votre code de téléphone. Pour le reste, vous avez un CAP d'électricité et vous travaillez en intérim. L'assesseur de gauche pose sa question habituelle, celle qu'il a posée à tous les prévenus étrangers de l'après-midi. Quelle est votre situation au regard du droit au séjour des étrangers? J'ai un titre de séjour de 10 ans. L'assesseur se tourne vers le président. L'interdiction du territoire français est encourue pour ce type de délai. Le président accepte de le mettre au débat, comme il dit. Au prévenu, quelles sont vos attaches en France? Ma mère habite à Toulouse. Votre maman est de nationalité française? Le prévenu acquiesce. La victime, David F., s'avance à la barre. Suite aux violences, je ne sors plus trop. Quand il commence à expliquer qu'il aurait peut-être besoin d'aide pour la suite, le tribunal l'interrompt. L'accompagnement des victimes n'est pas de la compétence de cette juridiction. Son avocate prend le relais pour demander 1 500 euros de dommages et intérêts. La procureure fait court. Les faits sont reconnus. Le casier montre que le recours à la violence est régulier et que le choix des victimes est particulier. Si on est violent quand on boit, on ne boit pas. Elle demande 30 mois de prison. L'avocat du prévenu revient sur son alcoolisation. Il a fallu attendre 10 heures pour qu'il puisse comprendre ses droits. Quand il revient une demi-heure plus tard, c'est effectivement pour rendre le casque. On lui demande d'attendre la police, il attend. Il a une situation professionnelle stable. Une peine aménagée lui permettrait de garder son logement et son travail. Timothée B. est condamné à 2 ans de prison et à une interdiction du territoire français pendant 10 ans.
You believe it's morning, I'm alive, but that's the last thing on my mind. You believe it's morning, I'm alive, but that's the last thing on my mind.
Yeah, see, I'm in the streets struggling. Young, dumb, and thuggin', give a fuck about nothing. Stuck at rock bottom, trying to come up on something. Pumping from sundown to sun up, he hustling. Vision, my nigga, now get in where you're fitting. And see prison as just a high cost of living, the life. Ante up, cause if you blow that dice on that OZ, Dorothy ain't going home tonight. That's on everything. Put it on the kids and the wife. Been burying my folk ever since they raised the price on the coke. Searching for a quick antidote. More money, more problems to cope.
Toulouse, chambre des comparutions immédiates, mars 2026. Les gendarmes ont contrôlé Michael T. après l'avoir vu téléphoner sur un scooter. La présidente résume les faits. Le test salivaire est positif au cannabis et à la cocaïne. Et vous avez sur vous un pochon de 0,6 g d'herbe. Le prévenu comparaît donc pour conduite sous stupéfiant, en récidive parce qu'il a été condamné pour des faits similaires en mars 2025. Il est d'ailleurs sorti de prison en janvier et exécute la fin de sa peine sous bracelet électronique. À 4 reprises, la présidente lui demande pourquoi il a pris ce scooter, étant donné sa situation judiciaire. Le prévenu répond invariablement qu'il devait aller au travail et qu'il sait bien qu'il a un problème d'addiction. « Je veux faire une cure, j'ai contacté l'association Clément Cisor. J'ai un rendez-vous dans 2 mois, pas avant. » C'est une chose de demander à une association, mais avez-vous essayé des choses par vous-même? Est-ce que vous avez essayé d'arrêter? C'est une maladie, la toxicomanie. Je m'en sors pas. Vous êtes pourtant dans une situation qui permet d'envisager l'avenir. Vous avez un CDI, vous gagnez 1 600 euros par mois, vous avez un enfant de 5 ans, vous êtes manutentionnaire. Si vous avez besoin de trouver une cure, vous pouvez vous adresser au service pénitentiaire d'insertion et de probation. Ils servent à ça. J'ai demandé. C'est eux qui m'ont orienté vers l'association Clément Cisor. Le procureur rappelle qu'il a 15 mentions sur son casier et que la plupart sont des infractions routières. Il est dangereux dans une voiture, dangereux sur un scooter. Ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'il va au travail en ayant consommé de la drogue. Alors qu'il est manutentionnaire, les accidents du travail sont de plus en plus fréquents à cause de la consommation de stupéfiants des travailleurs, notamment dans les boulots manuels, par exemple dans le BTP. Et pour que personne ne pense qu'il dit n'importe quoi, il ajoute « Il y a beaucoup d'articles là-dessus ». Puis demande 6 mois de prison avec maintien en détention et 200 euros pour avoir téléphoné en conduisant. L'avocat de Michael T. demande à ce que la peine soit exécutée sous bracelet. Je rappelle que, sauf circonstances exceptionnelles, les peines de 6 mois ne doivent pas être mises à exécution. Il travaille, il a trouvé un logement, il reconnaît qu'il a un problème et qu'il est toxicomane. Il fait des démarches. C'est plus utile pour lui et pour la société de lui permettre de se soigner que de l'enfermer. Il indique qu'en Espagne, la même infraction serait punie d'une peine d'amende. Quand le tribunal se retire pour délibérer, la compagne du prévenu, en larmes, se précipite vers le box, mais elle est repoussée par le policier chargé de la sécurité. Le tribunal revient et condamne Michael T. à 8 mois de prison avec maintien en détention, auxquels s'ajouteront les 5 mois de la peine précédente, l'aménagement sous forme de bracelet électronique ayant été révoqué. Sa compagne se lève, lui lance « Je t'aime » et sort de la salle.
You believe it's morning, I'm alive, but that's the last thing on my mind. You believe it's morning, I'm alive, but that's the last thing on my mind.
On rainy days I sit back and count ways on how to get rich. Coolin' with a mean ill Jamaican bitch. Banana coat matching with the ratchet. Low black weed, sweatpants style. Air Force is acting, jumping the six kicks. Lil' Chris talking about the bird. Float through your hood in the mean sense, that's giant. It's like the family that flipped on you for lying. Buried you alive, left your hall crying. We on your floor, look more dogs. They ain't eight either, I hope y'all niggas is on. And when we get there, all my niggas in the mix. Yeah, Shalal legs. Diamond got me buying Louis Fitch. Yo, those people say the Klan was missing since I got dropped off a radio. Overnight, your whole style was bitten in the process. Everybody switched their names like, what you call it? And he fast King James. It was the guards that repped that. Soft skin, dark skin bitches. Clarkson, Dizzy left the game dizzy. Got busy, that dancey shit slid through. We had to stay hooked, cause that's what we been through. RZA came through, mastermind. Got the cash from power, poop the power past the divine. Classical rhymes, mathematical rhymes. Styles unbearable, now niggas with the radical shines.
Toulouse, chambre des comparutions immédiates, décembre 2025. Hosni B, né dans la ville tunisienne de Monastir, comparé pour avoir vendu à la sauvette des paquets de cigarettes qu'il était allé acheter en Andorre. Le président résume. Quand on vous interpelle, vous avez 3 paquets sur vous et 80 euros. Un acheteur a été interrogé. Il a dit que vous lui aviez vendu un paquet à 7 euros et que c'était la première fois qu'il vous voyait là. Sur son casier judiciaire, 15 mentions. Infraction routière, contrefaçon de chèques, fabrication de fausses monnaies et blanchiment. Le président. Vous êtes toujours dans des combines. C'était avant. Depuis la naissance de mes enfants, j'ai arrêté tout ça. Hosni B veut expliquer sa situation. Je suis d'Avignon, Hilar, le président l'interrompt. Vous êtes surtout de Tunisie avant d'être d'Avignon. Le prévenu rit poliment avant de continuer. Comme il n'avait pas assez d'argent pour pouvoir se payer le train et l'essence, il a suivi son ex-compagne sur Toulouse, pour pouvoir continuer à avoir la garde de ses 2 enfants un week-end sur 2 et pendant les vacances. Il a réussi à trouver un CDD dans la sécurité incendie. Mais depuis octobre, plus rien du tout. J'ai déposé des CV partout. Même pour manger, c'est difficile. L'assesseur de gauche pose sa question préférée. Quelle est votre situation au regard du droit au séjour des étrangers ? Étranger ? Mais je suis français. Comment ça, vous êtes français ? Le prévenu se lance dans une explication que le juge trouve trop longue. On ne va pas raconter l'histoire familiale. Comment avez-vous obtenu la nationalité ? Ma maman est française. Ah bon, d'accord. Je n'avais pas compris. La procureure demande 6 mois de prison avec mandat de dépôt. Monsieur a participé au petit trafic de rue qui pullule et dans lequel sont vendus soit des stupéfiants, soit des cigarettes. Les cigarettes ont l'avantage d'être moins dangereuses pour les justiciables, qui savent qu'ils risquent moins. L'avocate de la défense refuse vigoureusement de mettre la vente d'un produit légal sur le même plan que la vente de stupéfiants. Est-ce que ces quelques paquets de cigarettes valent la peine de l'envoyer dans la prison de Seyss, qui a un taux d'occupation de 200%? Il a été dans la délinquance jusqu'en 2020. Il a été sanctionné pour ça. Il a fait de la prison. Là, on parle de 3 paquets de cigarettes. Le tribunal le condamne à 60 jours amende à 10 euros. À ces 600 euros s'ajoutent automatiquement 264 euros de frais de procédure que doit payer toute personne condamnée par un tribunal correctionnel. Le président marmonne quelque chose sur l'indulgence exceptionnelle de la peine avant de conclure. Si vous ne les payez pas, vous irez en prison.
You believe it's morning.
I'm alive, but that's the last thing on my mind. Do you believe it's morning? I'm alive, but that's the last thing on my mind.
Donc on vient d'écouter ces trois chroniques d'audience donc tirées du blog de la Sellette. Je rappelle l'adresse, donc lasellette.org. Et on voit bien que voilà, derrière le mythe de la justice, d'individualiser la peine, de faire un jugement personnalisé à la hauteur du parcours de la vie de la personne jugée, en fait, c'est toujours un pédigré social retenu à charge, c'est-à-dire la nationalité, la classe sociale, qui sont en fait autant d'éléments qui vont faire qu'on va être condamné plus lourdement, alors que ce qui sera toujours retenu comme circonstance atténuante par un juge, ce sera si on est bien inséré, c'est-à-dire si on est marié, si on a des enfants, un CDI, propriétaire de son logement. Voilà, autant de marques qui rappelle bien que la justice est avant tout une justice de classe. Et dans ces trois chroniques d'audience dont on vient d'entendre, on a aussi eu un bel exemple de ce que c'est que la double peine, donc quelqu'un qui prend à la fois une peine, on va dire en lien avec le délit pour lequel il est jugé, et en plus une peine au nom du fait que c'est un étranger ou une étrangère, et que du coup, là, c'est une interdiction de territoire, mais qui du coup entraîne la suppression du titre de séjour que la personne est là, et donc voilà, c'est ça la double peine. Et à côté, on a aussi pas mal de gens qui, on entend, sont condamnés, ont eu des condamnations pour des histoires de stup, et ça, c'est vraiment en fait le vrai visage de la guerre à la drogue que cachent les grands discours sur la guerre aux narcos, que Darmanin mène à grand bruit dans les médias. En fait, derrière les soi-disant, voilà, le haut du spectre du narcotrafic et tout ça, enfin tout ce qui sert à justifier notamment l'ouverture des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, et en fait c'est surtout des milliers de gens qui, des centaines de milliers de gens qui tous les jours se font contrôle par les flics et pour un petit bout de shit ou la revente d'une 10 balles se retrouve en comparution immédiate et au bout d'un moment en tôle. Donc voilà, ça montre bien aussi l'impact réel des lois répressives qui s'empilent, que ce soit la restriction sur le droit de séjour des étrangers ou les lois contre l'usage de stup, et voilà comment en fait ces lois elles entraînent concrètement des années de prison en plus pour plein de gens. Avant de passer à l'émission de tapage, je voulais juste signaler, on y reviendra plus longuement évidemment dans cette émission, qu'il y a un mouvement collectif assez fort qui a commencé à se lancer justement dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée, le QLCO, de Condé-sur-Sarthe, donc celui qui a ouvert à Condé-sur-Sarthe cette année, après celui de Vendin-le-Vieille l'année dernière. Pour rappel, donc c'est des endroits où Darmanin et l'État prétendent fermer donc le haut du spectre, les narcotrafiquants les plus dangereux, et pour les couper du monde extérieur, un peu sur le modèle du 41 bis, qui est un régime d'isolement qui avait été mis en place en Italie pour lutter contre la mafia. On en a déjà parlé à cette antenne, en fait il y a énormément de personnes placées dans ces quartiers qui sont en détention provisoire et donc qui ne sont pas encore jugées. Et donc un des buts de ces quartiers et des conditions terribles qui sont faites aux personnes enfermées, c'est de faire avouer les gens, c'est de faire avancer les instructions. Donc voilà, dans ce QLC en ce moment, donc on sait qu'il y a un mouvement collectif, il y a notamment donc beaucoup de prisonniers qui ont rendu en fait leur télé, leur frigo, enfin tout ce qui était cantinable. On sait que c'est un des moyens de lutte, parce que c'est une façon d'éviter que l'administration pénitentiaire ait un quelconque moyen de chantage et de pression sur vous. Et on sait aussi qu'il y a des recours collectifs qui ont été déposés. Voilà, pour rappel, en fait, dès l'ouverture de ces quartiers de QLCO, il y avait eu des mouvements, donc on les avait relayés dans le journal et à cette antenne. Donc à l'ouverture de Vendin-le-Vieil, il y avait une inondation de coursives et un communiqué qui était sorti, notamment pour dénoncer les conditions qui était imposé aux proches au parloir, parce que c'est donc des quartiers où il y a le retour du plexi du parloir Igiafol, où les familles passent au portail à ondes millimétriques et sont palpées, et où les détenus, bon, en plus, subissent une fouille à nu systématique, de toute façon, bon, tous les jours, et alors même qu'ils n'ont pas le droit de toucher leurs proches qui viennent les voir. Et au moment où le QLCO de Condé-sur-Sarthe avait ouvert, il y avait aussi eu de nouveau une lutte collective à l'intérieur, avec déjà des refus, enfin des rendre les cantines et les télés, les frigos, et voilà. Mais donc, comme on en avait parlé à cette antenne, c'est des lieux qui sont faits pour couper toute communication avec l'extérieur. Les heures de cabine sont très limitées. On sait que même les courriers avocats sont lus. Et donc, c'est très dur de savoir ce qui s'y passe. Et donc, c'est d'autant plus important de relayer les luttes donc des personnes qui y sont enfermées et de leurs proches, parce qu'il y a aussi les proches du coup qui commencent à se mobiliser. Enfin, il y avait déjà eu donc une première mobilisation de proches à Vendin-le-Vieil. Et donc, c'est très important de les soutenir et de relayer ce qui s'y passe, parce que voilà, l'État ne veut surtout pas qu'on parle de ces luttes. Et donc, avant de passer à la suite, on voulait faire un petit agenda et juste signaler donc le week-end prochain, donc le vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mai, il y a le week-end national des luttes contre les violences carcérales. Donc c'est la mobilisation annuelle qui avait été lancée notamment par Najed, donc la mère d'Idir Médérès, qui est mort au mitard de Lyon-Corba, et par ses proches qui se bagarrent depuis sa mort pour faire reconnaître la vérité, c'est-à-dire que, comme l'a dit un co-détenu qui était enfermé au mitard au même moment, Idir est mort tué par les matons. Et on avait fait une émission spéciale à l'automne, on avait retranscrit des extraits, des prises de parole au moment où avait été sortie la contre-enquête que la famille a sortie donc cette année pour défaire un peu expliquer la façon dont l'administration pénitentiaire et ses agents avaient été blanchis par la justice. Donc voilà, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site. Et donc depuis, chaque année, est organisée une mobilisation nationale pour la fermeture des mitards, pour la suppression aussi des ERIS et des ELAC, c'est-à-dire de toutes ces équipes de matons cagoulés et armés. Et donc voilà, c'est un mouvement qui est parti de cette lutte des proches et de la mère d'Idir, et qui ont élargi leur combat plus largement, en rencontrant aussi d'autres familles victimes des forces de l'ordre ou victimes de la prison, à une lutte contre les violences pénitentiaires et les violences d'État. Donc, ce week-end national aura lieu à Lyon, donc à l'Illégalité. Le vendredi à 17h, il y a un tournoi de boxe et une cantine. Le samedi, c'est toute la journée, il y aura des discussions, des présences, il y aura d'anciens prisonniers et des organisations anticarcérales qui viendront discuter. Et après, ces soirées finales, donc projection d'un match de foot. Et le dimanche, manifestation à 15h à la place Bellecour. Donc voilà, pour les personnes qui sont autour de Lyon, on vous invite à y aller et à soutenir la lutte des proches d'Idir. Et voilà, il y a aussi peut-être d'autres initiatives à d'autres endroits, parce qu'on sait que ça arrive de temps en temps. Et sinon, en ce moment même, au moment où cette émission est en train d'être diffusée, on sait qu'il y a un appel à rassemblement à la cour d'appel au palais de justice à l'île de la Cité à Paris, parce que c'est la fin du procès en appel de l'affaire dite du 8-12. Donc on en a parlé souvent, notamment via Libreflot, qui avait été donc enfermé 11 mois à l'isolement à Bois d'Arcy et qui avait écrit pas mal de lettres à l'époque à l'envolée, donc on avait lui ici. Et voilà, pour dire que là, il y a l'appel qui se passe, que c'est très compliqué, ces audiences, que voilà, un vrai dossier à charge monté par la DGSI, avec voilà, et le regard bienveillant du parquet antiterroriste. Voilà, et donc il y a un appel à se rassembler, voilà, qui doit avoir lieu au moment où cette émission est diffusée, et on reviendra bien évidemment dans les émissions à venir sur ce procès en appel, et puis une fois qu'on aura le verdict et les suites. En tout cas, plein de force, voilà, aux copains, copaines qui sont jugés en ce moment par le parquet antiterroriste. Mais donc, on va mettre aujourd'hui, on va écouter une émission un peu particulière de la Sellette, parce qu'elle porte sur la Cour européenne des droits de l'homme, qui est une institution dont on a plusieurs fois parlé à cette antenne dans cette émission, parce que c'est souvent le dernier recours juridique, une fois que toutes les voies de recours juridiques ont été épuisées en France. On pense notamment aux proches de Lamine Dieng et d'Angelo Garand, qui ont tous les deux été tués par les forces de l'ordre, qui ont donc se sont pourvus aussi devant cette Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi à des prisonniers qui ont fait beaucoup de recours administratifs contre les traitements inhumains et dégradants et les tortures qu'ils subissaient de la part de l'administration pénitentiaire et de ses agents, et qui ont aussi été jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc c'est quelque chose souvent qui est à la fois le dernier recours juridique, c'est-à-dire, et qui parfois aussi va à l'encontre de la justice française et finit par condamner l'État français, même si, voilà, encore une fois, on en a déjà parlé ici, les conséquences d'une telle condamnation sont souvent assez dérisoires au vu de la bagarre et de la longue lutte que c'est d'obtenir un arrêt de cette cour. Mais voilà, ce qui nous semble intéressant donc, dans cette émission, c'est la première partie d'une série de deux. Et donc, dans cette première partie, les camarades de la Sellette vont présenter le fonctionnement de cette institution en citant plusieurs, en s'appuyant sur plusieurs cas, notamment sur celui de Kamel Daoudi, donc qu'on a plusieurs fois reçu dans cette émission aussi, Kamel Daoudi, qui est assigné à résidence depuis maintenant 17 ans par l'État français, dans des conditions complètement kafkaïennes, voilà. Mais donc, ça nous semblait intéressant malgré tout pour les personnes, nos auditeurs, auditrices à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, de mieux connaître, parce que c'est toujours important de connaître la justice, vu que c'est quand même le droit, c'est le rapport, enfin c'est ce qui préserve l'ordre établi, mais c'est aussi un terrain de lutte, et donc c'est important de connaître les institutions. Et donc on pensait que ça pouvait être intéressant de mieux comprendre comment fonctionne cette Cour européenne des droits de l'homme. Donc voilà, je vais vous laisser avec les camarades de la Sellette jusqu'au bout de cette émission, on se retrouve en direct la semaine prochaine. D'ici là, force, courage et détermination à tous les prisonnières, les prisonniers, à leurs proches, et comme d'habitude, il n'y a pas d'arrangement.
Et le soleil se lèvera en même temps que la misère. Frère, t'es parti, t'étais là devant moi, me parler de Yarabi. Tu voulais te mettre à faire la hier-prime. Que Dieu te préserve des châtiments. Après la vie c'est autrement, et la rue perd ses monuments, perd ses valeurs, perd ses principes, perd son respect de la discipline dans l'illicite. Les peines s'alourdissent, des assises au cercueil, un article en page fait divers, un haja en deuil. Les femmes de la famille autour pour la soutenir, chagrin de son fils qu'elle a vu sortir pour plus jamais revenir. Parti trop tôt, sans dire au revoir à la famille, au poteau. Une lumière éteinte dans le ghetto, en souvenir que des photos, encore plus tristes en vidéo. Les quartiers désunis se réunissent pour saluer ta mémoire, énumérer tes qualités, raconter tes histoires, partager avec toi Je m'étais pas rendu compte à quel point je tenais à toi. Et c'est toujours comme ça. Ton visage et ta voix me hantent, frère. Ta personnalité me manque. On n'était pas du même milieu. T'étais plus vieux. C'est peut-être pour ça que j'appréciais mieux. T'étais prêt à tout pour moi. Au point de cartonner en bécane, en venant bouger pour moi. En rap, t'écoutais que moi. J'ai pas vu ta mifa. Que Dieu les protège, je suis dégoûté de moi. Que Dieu me pardonne. Subhanallah, à quel point les épreuves peuvent affaiblir un homme. C'est tout ce que je regrette. Mais sur le Coran de la Mecque, que j'étais là sans y être. Mais c'est Dieu qui veut. Parler de toi me fait rougir les yeux. Toujours une doa pour ton âme. J'espère te voir dans les yeux. T'étais un grand monsieur, respecté même par la police. Courageux, beau gosse comme ton fils. Malgré le train de vie, tu le ramenais faire du poney. Se refusait pas, t'allais tout nous donner. Savais pas lire, mais avec toi, on apprenait. Un mec fiable, juste un regard, on se comprenait. Toujours le sang froid, jamais froid aux yeux. Piloter ta queue en roue arrière, même à deux, du 9-4-9-2. M'en bats les douilles qu'il était dangereux. Marche avec toi à cause des embrouilles. On n'insulte pas à mort, qu'ils soient bons ou mauvais. Dans mon camp ou dans le tien, qui repose en paix. Là où ils sont, ils pensent plus à la vie. Et s'ils pouvaient revenir, c'est pour gagner leur place au paradis. On s'entrefume et c'est le système qui nous met à dos. Je rends hommage au nom beau comme à Arafat ou Nordo. Que Dieu les préserve du feu de l'enfer. C'est pire que de sentir qu'on va mourir, qu'on peut rien faire. Quand chantais que t'allais mal et que t'enchaînais les joints, j'improvisais un freestyle qui te redonnait le moral. J'ai perdu beaucoup de gens, la plupart violemment, pour des histoires de manque de respect ou d'argent, ou d'accidents alcoolisés ou d'overdose. La mort met tout le monde d'accord, fait oublier les causes. Soit tu relativises, pète les plombs ou te laisse aller. J'pleure pas mais mon écriture est salée. Pour ceux qui ont perdu leurs frères, leurs sœurs, leurs pères, leurs mamans, leurs enfants sous les décombres, des bombardements. Loin de la vie de Paris, tout se passe comme Dieu a dit. Que doit être la souffrance, mourir de maladie. Tonton Ahmed, je t'ai vu sur le lit de mort. Ça fait mal d'assister à l'agonie d'un homme en or. Bienveillant, tu me parlais comme un ami. Toujours là à réconcilier les membres de la famille. Tu t'es forcé de nous inculquer les bons caractères. Nous transmettre les vertus, les richesses de la misère. Le daron exemplaire, tu parlais toujours calmement. Malgré le vacarme de tes nombreux garnements. Je l'ai jamais vu se plaindre. Revenu de la Mecque avec la lumière, il est parti sans l'éteindre. Que Dieu facilite ma tente. Chacun son tour et la mort nous a tous mis sur liste d'attente. Deux fils tous condamnés. C'est douloureux de perdre deux fils dans la même année. C'est pour la mère de ma mate, pas sirop de couré. Salam à la famille de la Snatouré. Vieux bonhomme, respect. Depuis qu'ils sont plus là, c'est plus pareil. Reposer en paix. Pour Saïd, de cheville à Atis Mons. Même en prison, t'avais besoin de mon once. Et j'aurais tant voulu tes coups celui-ci. Tu nous as quittés derrière les barreaux en semi. On croit pas au suicide. L'imam qui t'a lavé nous a dit que t'étais beau. Le visage reposé car t'étais bon. Tu partageais ton cœur comme du pain. Sauf que neige, t'es senti mieux que du parfum. T'achetais mes CD par 20 pour les offrir dans la rue. Je réalise toujours pas qu'ici bas je te verrai plus. Quand mon regard était gris, tu me ramenais du soleil. Je me souviens du laser quest des vacances à Marseille. Tu me disais t'inquiète, parce qu'il y a plein de gens qui t'aiment. Tu leur donnes de la force quand tes freestyles et tes thèmes. Tu disais toujours Alhamdoulilah même quand tout allait mal. C'est ça, ils t'ont craché, ça, tout était normal. J'ai appris sa mort quand j'enregistre cet album. Trois jours avant, parler de se voir au téléphone. Comme quoi la vie nous coûte rien, t'es jamais sûr d'être là demain. De rentrer ou te réveiller, aller au Radma. Pour les générations sacrifiées, les corps rapatriés. Les mères en deuil et les hommes qui vont prier. Pour les chers qu'on voit plus, un jour viendra notre tour. Et la vie continue. Du cœur en toute sincérité, à bon entendeur, je te dis sévère aux gens qui sont sur la réalité. Je te parle de celles qu'on a vécues, celles qu'on vit, celles qu'on vivra certainement si on survit. À Mamadou, la goutte d'or, 18ème frère, la rahmou. À Kimbaku, choisi, tu nous manques frère, la rahmou. Zahir, Djala Koulibaly, de Reims, vous nous manquez les frères, la rahmou. Karim Zerouali, à Madame Diakité, la Rahma, à tous les êtres chers qu'on a perdus. La liste est longue. Que ce soit de la famille, des amis.
même les ennemis. Parce que la mort met tout le monde d'accord. Tout ce qu'on possède, c'est de la location, même si c'est acheté. Parce que on n'emporte rien avec soi. Que Dieu vous protège. Bien sûr, si vous avez la foi. Je vis chaque jour de ma vie comme si c'était le dernier. Quand mon fils me sourit, c'est comme si c'était le premier. Je remercie la Zermi, t'as fait moi ce que je suis. Avec tout ce que mon cœur aime et tout ce qui me réjouit. Tout ce qui me donne envie, ce qui m'attache à la vie. Tout ce qui fait garder la foi et supporter la survie. Tu peux recompter les jours vécus, t'en es la somme. Je suis là pour braver les épreuves et la mentalité de l'homme. Tantôt on est fort, tantôt on faiblit. Tantôt on souvient, tantôt on oublie. Cousin, demain c'est aujourd'hui. En attendant le jour J où tu me verras plus que sur un poster devant des bougies. J'espère tu garderas de bons souvenirs de moi. Si je t'ai fait du mal ou du tort, excuse-moi sincèrement. Je suis là pour exister du mieux que je peux. Je travaille sur moi-même pour résister aux tentations du feu. Personne n'est parfait, tu le sais. J'arrêterai pas de te conseiller même si je fais pas mieux, je le sais. Le temps passe et je peux pas le retenir. Trop de cœur, trop de nerfs, et j'arrive pas à me contenir. Deux personnes me font souffrir, mon fils et moi on sort d'elle. Je suis pas heureux moi, bref c'est personnel. C'est mon destin, je l'accueille les bras ouverts. Le monde m'a pourri la vue, pour ça je regarde de travers. Je suis blasé de tout et je kiffe peu de choses. Je me passe d'une femme, la passion fan comme une rose. Envie de tout plaquer comme Kaina Samet. A découvert des Hassanet, faites une doa pour que ça m'aide. Je sais que Dieu a prévu un truc pour moi. Et quand je vais mourir, je sais que je vais rien comprendre, je vais rien voir venir. Peut-être du canon, d'un brolic ou d'un fusil. Ou d'un chlasse tenu par la haine de la jalousie. Ça va trop loin, parle pas de pitié, de respect pour l'être humain. Instinct de survie et honneur oblige. S'agit de faire les choses bien, ou c'est minimum 10 piges.
Vous allez en avoir besoin,
ok. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir.
Antécédent judiciaire, vous avez déjà été condamné.
Par un juge
qui vient d'être convoqué récemment.
Il y a entre les parents de ces policiers.
Là, ils sont assermentés, monsieur.
Si c'est la dernière fois que vous passez devant un tribunal correctionnel, on se retrouve libre.
Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Tapage, une émission sur les violences judiciaires qui passe tous les deuxièmes jeudis de chaque mois sur Canal Sud 92.2. Aujourd'hui, autour de la table, on est Clément, Nord, Marine, Marie et Baptiste Ausson. Et on va faire une émission sur la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, aujourd'hui. On commence un cycle de deux émissions. Dans cette première émission, on va revenir tout d'abord sur l'histoire, un peu le fonctionnement, un peu les critiques que la CEDH occasionne dans la droite. Et on va prendre un premier exemple pour regarder un peu comment ça fonctionne. Et après, il y aura une deuxième émission dans laquelle on étudiera quelques cas supplémentaires, notamment les articles qui concernent le droit à la vie, avec la mort de Rémi Fraisse et la mort d'Angelo Garand.
Mais d'abord, la CEDH, qu'est-ce que c'est? et de quand ça date? Alors, la CEDH, pour Cour européenne des droits de l'homme, est née dans un contexte particulier de l'après-Seconde Guerre mondiale, où les États européens ont voulu éviter qu'un pouvoir puisse à nouveau bafouer les libertés fondamentales. Et c'est ainsi qu'a été créée, en novembre 1950, à Rome, la Convention européenne des droits de l'homme, qui est donc un texte fondateur qui a été signé par les premiers États membres du Conseil de l'Europe. Alors, il faut faire attention, il ne faut pas confondre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. Le Conseil de l'Europe, c'est vraiment une institution distincte qui regroupe aujourd'hui 46 États membres. Et donc, cette Convention européenne des droits de l'homme, c'est une espèce de catalogue des droits fondamentaux qui sont donc organisés en articles. Il y a le droit à la vie, l'interdiction de la torture, le droit à un procès équitable, la liberté d'expression, le respect de la vie privée, etc. On va en évoquer quelques-uns dans ces deux émissions. Si on prend par exemple l'exemple de l'article 2 du droit à la vie, ça paraît simple en apparence, mais la Convention pose jamais un droit sans prévoir immédiatement ses limites. L'article 2, il précise que, ainsi que si la mort est donnée par un agent de l'État, c'est pas forcément une violation si elle résulte d'un recours à la force absolument nécessaire. À l'époque de la rédaction de la Convention, la peine de mort prononcée par un tribunal est également prévue comme une exception. Ça a depuis été aboli par un protocole additionnel que la quasi-totalité des États membres ont ratifié. Mais c'était un peu pour vous montrer la logique de tout le texte. C'est-à-dire que chaque droit est garanti et que chaque exception est ensuite cadrée. Donc, pour veiller au respect de ces droits, a été créée en 1959 la Cour européenne des droits de l'homme installée à Strasbourg. Et c'est elle qu'on nomme communément la CEDH. Alors, son fonctionnement, il est vraiment unique au monde parce que n'importe quel citoyen d'un État membre peut la saisir dès lors qu'il a épuisé les recours dans son propre pays. C'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Et la Cour, elle intervient ensuite qu'en dernier ressort. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, que la CEDH, elle ne remplace pas les juridictions nationales. Elle intervient en contrôle pour vérifier que les engagements communs ont été respectés. Mais alors, qui peut saisir la Cour ? Donc, elle ne peut pas se saisir d'office, hein, il faut qu'on vienne la chercher. Qui peut le faire ? Des individus, donc des particuliers, mais aussi des groupes de personnes, une famille, par exemple, mais aussi des associations ou des ONG. Par exemple, on se souvient en France de l'affaire du siècle, cette plainte climatique qui a été portée par 4 grandes associations contre l'État français. Mais attention, il y a des conditions strictes. Les requérants doivent obligatoirement être ressortissants d'un État qui a ratifié la Convention et leur plainte doit être dirigée contre un État qui l'a également ratifié. On ne vient pas à Strasbourg se plaindre de n'importe quel pays du monde, seulement d'un des 46 États qui a ratifié la Convention. 46 et non plus 47, puisque la Russie a été exclue en mars 2022. Il existe aussi une autre voie, c'est ce qu'on appelle les plaintes interétatiques. C'est plus rare, mais un État peut porter plainte contre un autre État membre. C'est prévu par la Convention. Alors c'est historiquement rare, puisque la quasi-totalité des requêtes depuis la création de la Cour ont été introduites par des particuliers, mais depuis quelques années, les recours entre États se sont multipliés. La principale raison, c'est les conflits armés entre pays membres ou anciens pays membres du Conseil de l'Europe, avec l'exemple le plus évident récent, qui est évidemment celui entre la Russie et l'Ukraine, et avec des dizaines de requêtes croisées qui ont été déposées entre la Russie et l'Ukraine avant l'exclusion de Moscou en 2022, et qui continuent aujourd'hui d'être traitées par la Cour pour des faits qui ont été antérieurs à cette date. Alors la France dans tout ça, elle a une relation un peu complexe avec la CEDH, hein. Elle a ratifié la Convention en 1974, mais elle a accepté le droit de recours individuel qu'en 1981 sous François Mitterrand. Donc en fait pendant 30 ans, les citoyens français ne pouvaient pas saisir la Cour directement. Depuis la France, elle a été condamnée des centaines de fois sur les conditions de détention, sur des délais de justice beaucoup trop longs, sur la liberté de la presse, sur des écoutes téléphoniques. Enfin, on va y revenir. C'est justement l'objet de ces deux émissions, de vous donner un peu des exemples concrets de ce qui se passe ici.
Et alors du coup, avant de venir à des cas concrets, on va essayer de comprendre comment la Cour juge, comment s'organise la procédure. Donc comme l'expliquait Marine, la Cour, elle ne juge pas des individus, elle juge les États. C'est un outil au service de la Convention, ce qu'on appelle une justice subsidiaire. En pratique, ce sont quand même des individus ou des groupes d'individus, en règle générale, qui saisissent la Cour. Et donc la Cour, elle doit apporter une réponse, à la fois une réponse concrète à ces individus-là, et en même temps, elle doit juger si les États sont défaillants ou pas en ce qui concerne les droits de l'homme. Du coup, on voit qu'elle doit concilier deux échelles et deux logiques d'action qui sont assez différentes, celle de l'État, celle des individus. Alors la Cour, évidemment, elle est composée de juges. Il y en a un par État qui a ratifié la Convention, donc 46 juges actuellement. Mais ce n'est pas parce que chaque juge est là pour un État que ces juges représentent les intérêts de leur pays respectif. Ils sont censés juger en toute indépendance. On ne va pas rentrer dans les détails de procédure, mais on peut quand même préciser qu'il y a plusieurs formations de jugement. En règle générale, les affaires elles sont jugées par des chambres composées de 7 juges, et il y a toujours parmi ces juges le juge de l'État contre lequel la plainte a été déposée. Après, exceptionnellement, la Cour peut aussi réunir ce qu'elle appelle une grande chambre. Là, il y a 17 juges. Ça reste assez exceptionnel. En gros, c'est généralement quand une des parties conteste une décision qui a été prise par la chambre de 7 juges, ou alors parce qu'une affaire est tellement compliquée que 7 juges trouvent que c'est pas assez et se dessaisissent de l'affaire. Alors, comment ça marche concrètement ? Sur le site internet de la CEDH, on peut lire que le système de la convention prévoit une saisine facile de la Cour afin que tout individu puisse avoir accès à la Cour, même s'il se trouve dans une région retirée dans des pays membres ou s'il est démuni.
Il n'y a pas du tout cette réputation-là, pourtant.
Alors, dans les faits, c'est gratuit, ok. Après, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Notamment, il y a un certain nombre de critères qu'il faut remplir avant qu'une affaire ne soit jugée sur le fond. Parmi ces critères, Marine vous le citait, il y a celui qui est le premier critère, qui est le critère d'épuisement des voies de recours internes. C'est-à-dire que le requérant ou la requérante doit d'abord avoir utilisé absolument toutes les procédures judiciaires qui existent dans son pays, avoir présenté son affaire devant toutes les juridictions qui sont potentiellement compétentes, et avoir reçu des réponses de toutes ces juridictions-là, avant de pouvoir présenter sa requête devant la CEDH. C'est une conséquence du caractère subsidiaire de la CEDH que vous expliquait Marine, c'est-à-dire qu'elle ne se, elle ne se substitue, enfin, elle remplace pas les instances qui existent dans chaque État, elle intervient que en cas de défaillance supposée d'un système, et donc selon cette logique, pour savoir si c'est défaillant, ben, encore faut-il avoir exploré tout le système. On a un exemple d'irrecevabilité pour non-épuisement des voies de recours internes avec le cas de Kamel Daoudi, dont on a déjà parlé dans une émission au mois de janvier. Alors Kamel, c'est un Français qui a été assigné à résidence par la France depuis 2008 suite à sa condamnation pour association de malfaiteurs terroristes. Et en 2018, donc 10 ans après cette condamnation, il a saisi la CEDH pour contester cette assignation à résidence. La CEDH a répondu en septembre 2023, délai assez long, mais elle a jugé sa requête irrecevable parce que Kamel n'avait pas contesté en cassation une décision qu'il avait eue par une cour d'appel et que d'autre part, il y avait une autre décision qui était en cours d'examen par le Conseil d'État. Du coup, la cour, elle a répondu 5 ans plus tard, mais pour dire qu'elle n'examinerait pas le fond de l'affaire. Donc autrement dit, quand on arrive devant la CEDH, c'est généralement à l'issue d'un très très long parcours judiciaire. Donc dans le cas de Daoudi, la réponse, elle arrive 13 ans après son assignation à résidence pour être rejetée. Et donc bon, faut pas s'être découragé, et même si c'est gratuit, il faut quand même avoir les moyens d'avoir fait toutes les procédures judiciaires avant.
Du coup, on imagine bien qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de requêtes qui vont être rejetées d'avance.
Alors justement, ce critère de recevabilité, effectivement, il n'est pas du tout anecdotique. En fait, par exemple, en 2025, la Cour, elle a 53 500 affaires qui sont en attente de jugement. C'est un chiffre énorme. Et la même année, il y a 31 000 requêtes qui ont été déclarées irrecevables. Et seulement 7 000 requêtes qui ont reçu une décision définitive. Donc effectivement, ces critères de recevabilité, ils sont extrêmement importants. Et ce qu'on constate, c'est qu'ils ont tendance à évoluer et plutôt dans un sens restrictif. Ces critères, ils se multiplient pour rendre plus difficile la possibilité de saisie de la CEDH. En 2010, par exemple, il y a un nouveau critère, c'est l'existence d'un préjudice important pour le requérant. Mmh. Une notion qui reste un peu vague. Et surtout, les délais de saisine ont été raccourcis. Initialement, il fallait saisir la Cour dans les 6 mois qui suivent la dernière décision qui a été rendue dans votre pays. Et maintenant, c'est plus que 4 mois. Alors que, comme on l'a dit, les délais sont... les affaires s'étalent sur des délais extrêmement longs. Donc voilà, c'est très très court. La CEDH, pardon, elle explique que ces mécanismes, qu'elle-même appelle mécanismes de filtrage et de restriction, ils ont été mis en place pour garantir son efficacité à long terme. Donc on l'a vu, elle doit faire face à énormément de requêtes, la CEDH. Mais quand même, on peut s'interroger sur cette philosophie qui dit « on va sauvegarder une institution en restreignant la possibilité de l'utiliser ». C'est une logique qu'on avait déjà vue à l'œuvre quand on avait parlé du droit d'asile en février et en mars de l'année dernière. Donc c'est une tendance qui n'est pas très originale, mais qui pose quand même pas mal de questions sur la justice, la démocratie et ce que c'est que des libertés qui s'épuisent quand on s'en sert, quoi. Alors sur le fond, comment ça se passe une fois qu'on a franchi ces barrières de recevabilité? Alors déjà, la procédure de la Cour, elle est quasi exclusivement écrite. Donc la CEDH, elle juge sur dossier. Donc ce qui est audience publique, audition de requérants ou de témoins, ça reste très exceptionnel. Et évidemment, la conséquence, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles enquêtes, pas de nouvelles pièces produites, ce qui n'est pas sans conséquence sur, forcément sur le déroulement du jugement. Et vu le très grand nombre des affaires qui sont présentées devant la CEDH, pour aller jusqu'au bout, ça peut prendre des années et des années. Et donc la Cour, elle a quand même prévu de pouvoir indiquer ce qu'elle appelle des mesures provisoires. C'est-à-dire qu'avant d'arriver au fond de l'affaire, de juger si l'État est défaillant ou pas, de condamner un État ou pas, elle peut demander à un État de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose. Par exemple, si on reprend le cas de Kamel Daoudi, lors de sa condamnation en 2008, Kamel avait été déchu de sa nationalité française, et donc quand il est sorti de prison, la France souhaite pouvoir l'expulser vers son pays de naissance, qui était l'Algérie. Kamel, il a saisi la CEDH en faisant valoir qu'il risquait des tortures si on le renvoyait vers l'Algérie. La CEDH, à ce moment-là, demandait à la France de prendre une mesure conservatoire. Elle a demandé à ce que la France suspende l'expulsion de Kamel le temps qu'elle puisse juger son affaire sur le fond. Et finalement, elle a donné raison à Kamel. Comme on l'a vu tout à l'heure, la CEDH, elle doit juger à la fois une situation particulière et un État. Et du coup, ces arrêts, c'est-à-dire les décisions qu'elle prend, elles vont concerner ces deux échelles. Au niveau particulier, la CEDH, son but, c'est de d'essayer de réparer les torts qui ont été causés aux requérants. En règle générale, ça se traduit par une compensation financière, mais ça peut prendre d'autres formes. Dans le cas de Kamel Daoudi, par exemple, ça a été d'annuler une expulsion du territoire. Au niveau des États, comme l'expliquait Marine, le but, c'est de prévenir une nouvelle violation des droits humains. Et donc, pour faire ça, dans ses décisions, dans ses arrêts, la CEDH peut exiger que l'État condamné prenne des mesures qui soient capables de mettre fin au non-respect des droits de l'homme. Les arrêts, ils vont pas prescrire forcément des mesures précises. Chaque État va pouvoir garder une marge d'appréciation sur les moyens qu'il va mettre en œuvre pour faire cesser ces violations des droits de l'homme. Mais par contre, l'exécution de ces arrêts, elle est absolument obligatoire. Dans le cas de la France, les condamnations de la CEDH ont conduit la France à modifier un tas de législations sur un tas de sujets. En vrac, on peut dire que la France a été donc obligée à autoriser les gendarmes à former un syndicat. Alors, ils n'avaient pas le droit avant. Elle a dû modifier ses lois sur la succession pour que les enfants dits adultérins ne soient pas discriminés par rapport aux autres enfants. Ou encore, elle a dû reconnaître la filiation d'enfants nés par GPA à l'étranger. Ce qui est très important dans ces condamnations des États, c'est que même si ces arrêts de la CEDH ils sont prononcés contre un État en particulier, ils ont vocation à s'appliquer à tous les États membres, puisque tous ces États doivent respecter les normes de la Convention. Et donc ces arrêts, ils peuvent amener des États qui n'ont pas été condamnés à modifier aussi leur législation. Et par exemple, en 2008, la CEDH, elle a condamné la Turquie parce que la justice turque n'avait pas donné accès à un avocat, à un justiciable, pendant sa garde à vue. Et elle a estimé que ça, le fait de ne pas avoir droit à un avocat pendant une garde à vue, ça violait le droit à un procès équitable qui est défini dans la Convention. Et donc cet arrêt a conduit la France en 2011 à modifier sa législation de manière à ce que les justiciables aient aussi droit à un avocat dès le début de leur garde à vue. Donc voilà, on a vu, ces arrêts de la Cour européenne, ils sont obligatoires. Mais qu'est-ce qui se passe en pratique si un État ne respecte pas les arrêts de la Cour? En fait, finalement, ça va être ça aussi l'objet de cette série d'émissions, c'est de comprendre quelle est la portée réelle de la Cour européenne des droits de l'homme. Et ben, en théorie, il s'expose à de nouvelles condamnations, nous dit la CEDH, et c'est à peu près tout, parce que la Cour n'a aucun pouvoir de sanction. Son seul pouvoir de sanction, c'est un pouvoir d'image, un pouvoir moral, mais c'est tout. Et donc on devine bien les limites du système. Et donc on va essayer d'en prendre vraiment la mesure en décortiquant plusieurs arrêts qui ont été rendus par la CEDH.
« came from nowhere to St. Francis Street. Jukebox, baby, I played a new beat. Cadillac came, watch for the heat. Little lady says my name. Jukebox baby playing a strange game. Fly trumpet player looking for fame. Jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby. Coming home to us where I stood. Oh, jukebox baby, playing Johnny Rep. Oh, hot shot gambler looking for play. Jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby. Electron woman, jukebox baby, playing number four. Avenging angel, defeating the poor. Jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby.
Vous êtes toujours à l'écoute de Tapage sur Canal Sud 92.2 et on vient d'écouter Alan Vega avec Jukebox Baby. Quant à nous, on parle toujours de la CEDH.
Et on va parler de la CEDH comme ennemi de la droite. Alors malgré les limites exposées par Nord juste avant, Depuis plusieurs années, la CEDH est la cible de politiques et de médias de droite et d'extrême droite. À Tapage, on s'est plongé en essayant de pas trop se noyer dans cet univers merveilleux pour comprendre ce qui est reproché exactement à la CEDH. Et sans surprise, le thème principal qui concentre les griefs, c'est l'immigration. En clair, la Cour serait trop protectrice du droit des étrangers. On a d'abord vu une attaque coordonnée au niveau européen l'an dernier. C'était en mai 2025, les chefs de gouvernement de 9 pays européens ont adressé une lettre ouverte à la Commission pour lui demander une réévaluation du rôle de la CEDH. Donc ce texte, il était à l'initiative notamment de la présidente d'extrême droite du Conseil italien, Giorgia Meloni, et de son homologue social-démocrate danoise, Mette Frederiksen. Et il a été signé par les représentants d'autres pays, donc l'Autriche, la Belgique, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Tchéquie. Concrètement, ces pays reprochent à la CEDH, je cite, « l'évolution qu'elle a fait de l'interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui a, toujours selon le texte, dans certains cas limité notre capacité à prendre des décisions politiques dans nos propres démocraties. Nous avons vu par exemple des cas d'expulsion de ressortissants étrangers criminels où l'interprétation de la Convention a abouti à la protection des mauvaises personnes et a posé trop de limites à la capacité des États à décider qui expulser de leur territoire. » Donc les 9 États estiment qu'ils devraient disposer d'une plus grande marge de manœuvre au niveau national pour décider quand expulser des ressortissants étrangers criminels. Par exemple, ils citent « dans les cas de crimes graves, nous devrions avoir plus de latitude pour décider de l'expulsion des ressortissants étrangers criminels », précise-t-il. C'est toujours cette catégorie qui est mise en avant. Alors il faut savoir que cette offensive au niveau européen, elle n'est pas nouvelle. En 2024, donc l'année précédente, l'Italie, le Danemark et l'Autriche appelaient à des solutions innovantes sur la gestion migratoire. Par exemple, de solutions innovantes. Des plateformes de retour installées hors de l'Union européenne ou la redéfinition du concept de pays tiers sûr afin d'autoriser l'installation de centres pour demandeurs d'asile hors du vieux continent, par exemple dans des pays comme le Rwanda qui a été cité. A noter que la Commission européenne a depuis fait des propositions juridiques pour mettre en place ces projets. Alors, un article de la Convention est particulièrement visé, c'est l'article 3, qui interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants. Pour l'Italie, il est interprété par la Cour de manière très extensive pour suspendre les mesures de reconduite à la frontière. On va citer quelques exemples de décisions contestées par ces pays, l'Italie notamment, avec un arrêt de 2023. C'était l'arrêt AE et autres contre Italie. Rome avait été condamnée pour détention arbitraire lors du transfert de ressortissants soudanais. Et un autre arrêt, c'est l'arrêt JA et autres contre Italie, qui assimile à une privation de liberté illégitime le séjour de migrants dans le centre de détention de l'île de Lampedusa, sans prendre en compte, selon Carlo Fidanza, le chef de la délégation au Parlement européen, qui est membre du parti Fratelli d'Italia, donc le parti de Giorgia Meloni, sans prendre en compte donc le contexte d'urgence. Une autre critique de la CEDH est formulée en juin 2025 sur un formidable site Contrepoint. C'est un journal qui traite l'actualité sous l'angle libéral, selon ses mots. Alors, c'est un texte de Jean-Philippe Delsol. Jean-Philippe Delsol, c'est un avocat. Il est président de l'Institut de recherche économique et fiscale, l'IREF, qui édite le fameux site Contrepoint. Donc, il revient sur cette fameuse lettre ouverte des 9 États européens avec ce titre. Je cite, j'ouvre les guillemets. Il faut fixer les limites d'intervention de la CEDH. Et dans ce texte, donc on a trouvé quelques pépites qui nous font bien sentir le versant libéral du site Contrepoint. Je réouvre les guillemets. Donc Jean-Philippe Delsol qui explique que la Cour ne transgresse pas le droit, mais elle le façonne volontiers de façon progressiste. Pour illustrer ça, il cite l'arrêt Matelli contre France du 20 octobre 2014, dans lequel la CEDH, donc c'était l'arrêt que Nord avait cité, la CEDH avait donné le droit aux militaires d'adhérer à des syndicats. Il y a un autre arrêt, c'est l'arrêt Ottman contre Royaume-Uni du 17 janvier 2012. Donc la CEDH a empêché l'expulsion d'un criminel jordanien vers son pays d'origine, malgré les garanties données par la Jordanie d'un procès équitable. Donc Jean-Philippe Delsol conteste ça. Donc il continue ses critiques sur d'autres sujets que l'immigration, c'est pas la principale thématique qui est ciblée, avec cette question qui est assez cocasse. Fallait-il d'ailleurs que la CEDH s'occupe d'imposer en France un avocat dès la première heure de la garde à vue, de faire disparaître la distinction entre enfant naturel et légitime, d'aligner l'allocation d'adultes handicapés des résidents étrangers sur celle des nationaux, d'abroger le délit d'offense envers les chefs d'État étrangers, d'établir la filiation des enfants conçus dans le cadre d'une gestation pour autrui.
Fallait-il.
En forme, monsieur Del Sol. Donc, en France, sur le plan national, la CEDH fait l'objet de défiance depuis quelques années déjà, sur deux plans, donc au niveau politique d'abord. Fin 2023, Gérald Darmanin, qui était alors ministre de l'Intérieur, avait expulsé, contre une décision de la CEDH, un ressortissant ouzbek au motif qu'il était soupçonné de proximité avec la mouvance djihadiste. Donc pour rappel, cet homme avait vu sa demande d'asile définitivement rejetée en 2022 parce qu'il représenterait une menace grave à l'ordre public. Il avait saisi en urgence la CEDH en raison des risques d'être soumis en Ouzbékistan à de la torture et à des traitements dégradants en cas d'arrestation et de détention. La CEDH avait ordonné au gouvernement de ne pas expulser cet homme, en attendant qu'elle statue au fond sur les risques qu'il encourait donc dans ce pays, l'Ouzbékistan. Mais c'était dans le contexte de l'attentat d'Arras, le meurtre d'un professeur par une personne définie comme radicalisée, et Darmanin, à l'époque, était passé outre la décision de la CEDH, ce à quoi le juge des référés du Conseil d'État, qui avait été saisi en urgence, a estimé qu'il s'agissait d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Cette affaire a donné lieu à des critiques virulentes de la Cour dans certains médias, comme évidemment CNews. Donc le 13 décembre 2023, alors là aussi on s'est plongé dans des séquences formidables, dans son édito, donc Pascal Praud s'en prend à la Cour, qui nous empêcherait d'expulser à tour de bras. Je vous ai fait un petit florilège de ces phrases pendant cet édito. Donc j'ouvre les guillemets, je cite « La CEDH impose sa loi aux États européens. Le droit français est subordonné à la CEDH. L'expulsion d'un étranger, par exemple, est impossible s'il est exposé à de mauvais traitements dans son pays. Le regroupement familial, le droit d'asile sont protégés par la CEDH. » Le Conseil d'État a même demandé l'avis de la CEDH sur un dossier. On croit rêver. Il faut donc sortir de la CEDH.
Ça, c'est la conclusion de Pascal Praud. Il faut sortir de la CEDH.
Absolument. Il faut quitter la CEDH. On vous a épargné le son, évidemment, parce que vu le contexte, on s'est dit que c'était une bonne idée. Et il y a un autre exemple dont on ne va pas passer le son non plus, mais on va évoquer une autre journaliste d'extrême droite sur Europe 1. Donc, c'est pas CNews, c'est Europe 1, mais c'est exactement pareil. C'est Charlotte Darnielas, en novembre 2024, qui déjà dénonçait que les interprétations de la Cour pour empêcher des expulsions ne cessaient de s'élargir. Donc, pour les deux, pour CNews, Europe 1, enfin pour tout groupe Bolloré, la CEDH serait trop permissive et nous empêcherait d'expulser en rond. Ce qui est cocasse, et je vais finir par ça, c'est que c'est la même CNews qui a saisi la CEDH, justement, donc la même CEDH, l'an dernier, pour contester une sanction qui lui avait été infligée par le CSA en 2021. Ça concernait, vous vous rappelez peut-être, des propos d'Éric Zemmour sur les mineurs isolés qui seraient, je cite, des voleurs, des violeurs, des assassins. Donc ça, ce sont des propos qui avaient été tenus le 29 septembre 2020 dans une émission de CNews. Le CSA avait sanctionné la chaîne pour manquement à l'obligation de maîtrise de l'antenne. Puis le Conseil d'État avait, en 2022, rejeté le recours de la chaîne contre cette décision. Et CNews a saisi donc la CEDH en s'appuyant, tiens donc, sur la Convention européenne des droits de l'homme et en dénonçant une violation de l'article 10. Donc l'article 10, c'est celui qui est consacré à la liberté d'expression. Finalement, CNews a été débouté par la CEDH début 2025 sur les mêmes fondements. Pas de bol.
Ça va pas leur faire rêver la CEDH.
Sûrement pas.
Yeah.
vient d'écouter le groupe Tagbeer. Vous êtes toujours sur Tapage 92.2 sur Canal Sud et on est dans notre émission consacrée à la CEDH.
Et tant qu'à faire, maintenant, si on prenait un exemple concret.
On va prendre un exemple concret qui parle là aussi de l'article 10 que Clément vient d'évoquer, qui protège la liberté d'expression. Et l'exemple qu'on va prendre, c'est celui de Jean-Marc Rouillant, condamné à de la prison ferme pour apologie du terrorisme. Alors, qui est Jean-Marc Rouillant ? Jean-Marc Rouillant, c'est un membre d'Action Directe, qui est un groupe révolutionnaire des années 80, qui a été condamné à perpète pour l'assassinat dans les années 80 du PDG de Renault, Georges Besse, et de l'ingénieur général de l'armement, Renaud Audran. Il est sorti en liberté conditionnelle en 2012, après avoir passé 24 ans en prison. Et Jean-Marc Rouillant, en février 2016, il fait une interview avec des journalistes du journal Le Ravi, un journal marseillais, qui est diffusé sur une radio locale, Radio Grenouille. Interrogé sur les événements de Charlie Hebdo qui ont eu lieu en 2015, voilà ce que Jean-Marc Rouillant répond. « Je les ai trouvés très courageux. Ils se sont battus très courageusement. Ils se battent dans les rues de Paris. Ils savent qu'il y a 2000 ou 3000 flics derrière eux. Souvent, ils ne préparent même pas leur sortie parce qu'ils pensent qu'ils vont être tués avant même l'opération. Ensuite, ils restent les bras ballants en disant « Merde, on a survécu à tout cela. » Il dit aussi un peu plus tard « On peut dire qu'on est absolument contre leurs idées réactionnaires, on peut dire plein de choses contre eux, dire c'est idiot de faire ci, de faire ça, mais pas dire que c'est des gamins qui sont lâches. » Là-dessus, le parquet ouvre une instruction et Jean-Marc Rouillant est condamné en 2016 pour apologie publique d'actes de terrorisme. Il est condamné à 8 mois d'emprisonnement ferme. Jean-Marc Rouillant fait appel et la peine est aggravée. C'est-à-dire qu'en plus des 8 mois de prison, la cour d'appel ajoute 10 mois de sursis avec mise à l'épreuve. Jean-Marc Rouillant va ensuite en cassation, il fait un pourvoi, et la cour de cassation en 2018 rejette son pourvoi. Et là, on revient un peu sur les choses dont on a parlé là, toute la première partie de l'émission, c'est-à-dire qu'ayant fait tout le parcours en quelque sorte, il peut saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est donc ce qu'il fait, il accuse l'État français d'avoir violé l'article 10 de la Convention qui protège la liberté d'expression. Du coup, on va lire intégralement cet article qui est composé de deux parties. La première partie, hop, la voici. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontières. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma et de télévision à un régime d'autorisation. Et ce qui est intéressant, c'est la deuxième partie. La deuxième partie, elle expose les situations dans lesquelles l'État peut légitimement limiter cette liberté d'expression. L'exercice de ces libertés, comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation, des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. C'est-à-dire que dans l'affaire de Jean-Marc Rouillant, la CEDH et tout le monde, hein, le gouvernement français et Jean-Marc Rouillant lui-même évidemment, considèrent que la condamnation pénale de Rouillant a constitué une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression garantie par l'article 10, je cite. Mais la question qui va être examinée ensuite par la CEDH, ça n'est pas si c'est ou non une ingérence, c'en est évidemment une, c'est si cette limitation à la liberté d'expression de Jean-Marc Rouillant est un problème. Donc ce que la CEDH va regarder, c'est est-ce que cette ingérence est dirigée vers un but légitime ? Est-ce qu'elle est nécessaire dans une société démocratique, comme elle le dit ? Et est-ce que la peine est proportionnelle aux faits qui sont commis ? Donc par exemple, pour ce qui est du but légitime, la CEDH considère que oui, la limitation de la liberté d'expression de Jean-Marc poursuit un but légitime. Elle dit, et je cite, « La Cour considère, à l'instar du gouvernement français, qu'eut égard au caractère sensible de la lutte contre le terrorisme, ainsi qu'à la nécessité pour les autorités d'exercer leur vigilance face à des actes susceptibles d'accroître la violence, la condamnation du requérant pour complicité d'apologie d'actes de terrorisme avait pour but la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales. » Dit autrement, c'est oui, le but poursuivi par l'État français est légitime. De la même manière que le but est légitime, l'État français, la CEDH va considérer aussi que cette ingérence est nécessaire. Pourquoi elle est nécessaire ? La CEDH voit trois raisons. Elle est nécessaire parce que, effectivement, selon elle, Jean-Marc Rouillon a présenté sous un angle romanesque les actes terrorisme poursuivis. Parce que Jean-Marc Rouillon est quelqu'un de connu, qui a un lourd casier judiciaire. Et troisième raison... Raison tout à fait condescendante, parce que son interview passait sur une radio locale associative marseillaise, écoutée par un public jeune et selon eux influençable. Donc à ce regard-là, voilà, la CEDH, comme le gouvernement français, pense qu'il fallait limiter la liberté d'expression de Jean-Marc Rouillon. Mais alors sur quoi est-ce que la CEDH n'est pas d'accord ? En fait, il y a une seule chose qui la chatouille un peu, c'est la lourdeur de la peine. Voilà, il y a une seule chose qui lui va pas, c'est la lourdeur de la peine. La CEDH rappelle quand même que la liberté d'expression est, et je cite encore, l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions essentielles de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Rien que ça. Elle rappelle aussi que ça vaut aussi, pas seulement pour les idées consensuelles, mais aussi pour les idées qui heurtent, qui choquent et qui inquiètent. Du coup, une peine de prison ferme, en réponse à quelque chose qui est dit, la Cour européenne des droits de l'homme trouve ça un peu moyen. C'est pour ça que la CEDH rappelle à la France que, je cite, « le prononcé d'une condamnation pénale constitue une des formes les plus graves d'ingérence dans le droit à la liberté d'expression ». Et elle demande aux instances nationales de faire preuve de retenue dans l'usage de la voie pénale, tout spécialement quand il s'agit d'une peine d'emprisonnement ferme. Et elle dit qu'effectivement, une peine d'emprisonnement ferme concernant la liberté d'expression revêt un caractère particulièrement dissuasif quant à l'exercice de la liberté d'expression, ce qui est, ma foi, tout à fait certain. Donc, à la fin de cet arrêt, ben, la CEDH dit, voilà, la France a effectivement violé l'article 10 sur la liberté d'expression. Et armée de cet arrêt... Jean-Marc Rouillon demande la révision de son procès, ce qu'il obtient, et du coup l'affaire est à nouveau jugée par une cour d'appel. Mais là, c'est là où ça devient un peu farfelu, c'est-à-dire que pour son deuxième passage en cour d'appel, la cour d'appel condamne à nouveau Jean-Marc Rouillon à une peine de prison ferme, à une peine de 8 mois de prison ferme. Et du coup, là, tout recommence. Jean-Marc Rouillon revient devant la cour de cassation. Cour de cassation qui, à nouveau, rejette le pourvoi de Jean-Marc Rouillon. Et l'avocat de Jean-Marc Rouillon annonce, après avoir eu le résultat là, en décembre 2025, qu'ils allaient refaire un recours devant la CEDH. Et là, par contre, personne ne peut savoir comment est-ce que ça va finir exactement. La CEDH, autant, peut considérer que la peine a malgré tout diminué. Parce que je rappelle que le premier passage devant la cour d'appel, la peine était 8 mois de prison ferme et 10 mois de sursis avec mise à l'épreuve. Le deuxième passage devant la cour d'appel, la peine n'est que de 8 mois de prison ferme. Ce qui est, entre nous, un genre quand même de foutage de gueule, malgré tout. Bon, ils ont supprimé la partie sursis avec mise à l'épreuve. Et une des choses qu'on peut dire quand même de ça, c'est que les faits datent de 2016, on est en 2025, si tant est que... Je ne sais pas quand est-ce que ce sera jugé, peut-être en 2026, peut-être en 2027, ça sera plus de 10 ans après les faits.
Ce qui me semble aussi intéressant dans cette histoire, c'est que donc, la France a été condamnée une première fois, l'État français reconduit la peine, Jean-Marc Rouillon va introduire une deuxième requête, et on voyait tout à l'heure que la Cour européenne des droits de l'homme est submergée par les requêtes, et que face à ça... Elle doit, dit-elle, mettre en place des mesures de filtrage. Et il y a une intervention très intéressante d'une ancienne présidente de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est accessible sur le site du Collège de France, et dans lequel elle appelle quand même les États à prendre leurs responsabilités, c'est-à-dire à effectivement respecter et se mettre en conformité avec les arrêts pris par la CEDH, parce que le fait que les États ne le fassent pas, comme dans le cas très clair de Jean-Marc Rouillon, bah, effectivement, ça introduit de nouvelles requêtes dans une espèce de mouvement sans fin, parce que là, on se demande effectivement ce qui va se passer, et qui submerge complètement la Cour, et qui empêche l'utilisation légitime, en fait, des recours devant la CEDH.
Parce que là, deux choses l'une, soit en fait la CEDH va dire c'est bon, la peine a baissé, comme tu le disais, mais si elle maintient sa décision, en fait, ça va recommencer. La cour il va repasser devant la cour d'appel, qui va reprononcer une peine, qui sera peut-être inférieure, mais qui du coup, il va repartir devant la CEDH, et ainsi de suite, jusqu'à ce
jusqu'à
que...
sa mort, en fait, il peut continuer le même mouvement.
Et jusqu'à ce que la CEDH dise c'est bon, la peine a assez baissé.
Mais ça me fait penser un peu à ce que tu disais, Clément, tout à l'heure sur Darmanin à propos de l'expulsion de la personne en Ouzbékistan qui risquait la torture. C'est que Darmanin a tout à fait assumé de ne pas respecter ce que demandait la CEDH, et ce qui est quand même une chose un peu frappante, c'est-à-dire Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice, assume le fait d'être dans l'illégalité et que finalement les arrêts de la CEDH, il s'assoit dessus. Quand bien même on pourrait considérer qu'être condamné par la CEDH pour le non-respect de la Convention européenne des droits de l'homme, et comme on disait tout à l'heure, c'est pas exactement des furieux, ça a été infamant pendant bien longtemps. Là, aujourd'hui, il semblerait vraiment que ça fasse un peu ni chaud ni froid à tout le monde.
Et bien après cet exemple du cas de Jean-Marc Rouillant, la prochaine émission, on évoquera d'autres sujets, donc d'autres articles, notamment le droit à la vie et le sujet des mineurs isolés. On vous quitte et on se retrouve donc le mois prochain pour une nouvelle émission de Tapage, l'émission consacrée aux violences judiciaires sur Canal Sud 92.2.
N'hésitez pas si d'ici là vous avez des interrogations ou des commentaires sur la CEDH ou sur toute question liée aux violences judiciaires à nous écrire à émission Tapage 40 rue Alfred Duméril 31400 Toulouse.
Au revoir.
Le premier prévenu fera un an de prison pour un porte-monnaie volé à une dame dans la rue qui sortait de sa maison. Pas de chance, pense l'avocat. On serait tombé lundi ou mardi dernier. Mon client, c'est sûr, s'en serait mieux tiré. Quand même un an, c'est un peu exagéré. Comme le juge avait mal mangé, le deuxième prévenu fera 2 ans de prison. À 20 ans, quelle idée d'emprunter la DS à injection d'un haut fonctionnaire en fonction. Pas de chance, pense l'avocat. Monsieur le juge, j'aurais mieux digéré. Mon client, c'est sûr, s'en serait mieux tiré. Quand même 2 ans, c'est un peu exagéré. Comme le juge avait mal mangé, le troisième prévenu fera 4 ans de prison. On ne vole pas quand on est étranger, sans permis de séjour et sans qualification. Comme le juge était fatigué, le dernier prévenu ira dormir en prison. Il attendra pour être jugé quelques jours ou quelques mois. Question d'organisation. Ti-da-da, di-di-di-do-da, do-do-da, di-da-da, do-do-di-da-di-do-da. Ti-da-da, di-di-di-do-da, do-do-da, di-da-da, do-do-di-da-di-do-da. Ti-da-da, di-di-di-do-da, do-do-da, di-da-da, do-do-di-da-di-do-da. Da-da-di-di-di-da-da, do-do-da, di-da-da, do-do-di-da-di-da-da.